France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Paris, Rio de Janeiro, Lima, Mexico, La Havane et Port-au-Prince, c'est le voyage de Louis Jouvet dans les Amériques. Bonjour à vous tous et merci de nous accompagner dans nos équipées américaines. Et quel périple nous allons faire aujourd'hui avec vous qui nous écoutez en Belgique, au Canada, en France et en Suisse. Soyez les bienvenus. Nous sommes dans les années 40, loin du fracas des armes de la Seconde Guerre mondiale en Europe, sur les chemins des différents exodes et exils d'Européens dans les Amériques où il y a souvent plus de chassés croisés que de rencontres. En juin 1940, les Allemands sont à Paris. Louis Jouvet joue alors Ondine de Giraudoux dans son théâtre. Le 7 décembre, il donne son dernier cours au conservatoire. Il est interdit d'enseignement par le gouvernement de Vichy. Il songe à quitter la France pour les États-Unis, mais comment faire ? L'impresario Carcenti lui propose alors d'organiser une tournée pour lui et sa troupe en Amérique latine. Les autorités françaises se laissent convaincre du bien fondé d'une telle entreprise et délivrent les Ausweis nécessaires. D'autant plus que le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine sont prêts à les accueillir. Toute la troupe prend le chemin de Lyon, puis de Lisbonne, où tous embarquent pour Rio de Janeiro le 6 juin 1941. À bord du paquebot, il y a non seulement les comédiens, mais aussi 34 tonnes de bagages et de matériel, les décors, les costumes, les accessoires. Ils sont censés revenir en octobre, mais Rio de Janeiro, où ils arrivent 20 jours après, saura bien sûr les retenir. En octobre sort aux États-Unis, et juste après, au Brésil et à Cuba, le film américain en technicolor, A Weekend in Havana, avec la chanteuse et danseuse brésilienne Carmen Miranda, qui chante en anglais, avec l'accent brésilien, les beautés de la Havane. Même si Jouvet ne sait pas qu'il ira à Cuba, voici une belle musique américano-cubano-brésilienne pour accompagner le voyage des comédiens français de Lisbonne à Rio.
How would you like to spend the weekend in Havana? How would you like to see the Caribbean shore? Come on around the way over Sunday, to where the view and the music is tropical. You hurry back to your office on Monday, but you won't be the same anymore. How would you like to go where nights are so romantic? Where stars are dancing, rumbas in the sky, ay, ay. If you don't like to spend the weekend in Havana, you better pack up all your summer clothes. See you down at Slopsy Joe's. So long, boy, and goodbye, Havana. Brr-ga-ba, ba-ba, brr-ga-ba, ba-ba.
How would you like to spend the weekend in Havana? How would you like to see the Caribbean shore?
Havana, ooh, come on and run away over Sunday, where the view and the music is tropical. You'll hurry back to your office on Monday, but you won't be the same anymore. How would you like to go where nights are so romantic? Where stars are dancing, rumbas in the sky, ay, 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 ay. If you'd like to spend a weekend in Havana, you better pack up all your summer clothes. I see you down as Lopsy Joe's. So long, boy, and goodbye, hi, Havana. Brr-ga-ba, ba-ba, brr-ga-ba, ba-ba, brr-ga-ba, ba-ba, brr-ga-ba, ba-ba.
Louis Jouvet et ses comédiens débarquent à Rio de Janeiro, fascinés par la baie de Guanabara. Ils ont juste le temps de s'installer avant de donner 8 représentations au théâtre municipal et de partir en tournée en Argentine et en Uruguay. Le succès est tel partout qu'à leur retour, le préfet de Rio les convainc de ne pas retourner en France, de rester en Amérique et de s'installer à Rio. Jouvet loue un appartement à Copacabana, prépare 8 nouvelles pièces pour lesquelles il fait appel à des décorateurs brésiliens. Il s'agit notamment de l'Apollon de Marsac de Giraudoux, de l'Annonce faite à Marie de Claudel et Je vivrai un grand amour du dramaturge français Steve Passeur qui a partout un succès fou. Quelques semaines de vacances en cette fin d'été austral et c'est déjà le début de la deuxième saison le 12 juin 1942. Mais quelle déconvenue! Les salles sont bien moins pleines. Jouvet est épuisé. La saison s'achève le 19 juillet et la troupe part à São Paulo. Là-bas, le succès espéré n'est pas non plus au rendez-vous. Retour en Argentine, mais le nouveau théâtre où il joue n'attire pas le public. Et le 24 septembre 1942, quelle catastrophe! Après la représentation de l'Annonce faite à Marie, le théâtre brûle. La moitié des décors part en fumée. Louis Jouvet annule l'Uruguay. Il tient avant tout à mettre au point la tournée au Chili où on les attend. Ils prennent alors le train qui part de Buenos Aires et le voyage commence vers Santiago du Chili. Un voyage épuisant, mais tellement beau. C'est bientôt l'ascension des Andes et l'arrivée sur les hauts plateaux et cette immensité de la Puna où le temps semble suspendu. Impression de la Puna des Andes par la Camerata Bariloche, une œuvre de jeunesse du compositeur argentin Alberto Ginastera, composée en 1934, il avait 18 ans. Bientôt le train, qui transporte Jouvet, sa troupe, les décors et les costumes, entreprend la descente des Andes vers Santiago du Chili. Et là commence une équipée assez hallucinante. Les comédiens arrivent dans la capitale chilienne le 18 novembre. Ils sont accueillis par des centaines d'admirateurs, de journalistes, de photographes. Louis Jouvet n'en revient pas. Au théâtre municipal de Santiago, les représentations de l'école des femmes de Molière font un triomphe. On doit même rajouter 6 séances supplémentaires. Suivent les cocktails, les galas, les réceptions. Et Louis Jouvet retrouve enfin sa bonne humeur. Mais pas question de relâche. Le Pérou les attend. C'est le président lui-même qui a invité Louis Jouvet. Ils descendent alors en train de Santiago au port de Valparaiso et embarquent sur un bateau de guerre péruvien qui remonte la côte vers le nord. Louis Jouvet et ses comédiens sont décidément sur les traces du chef d'orchestre Erich Kleimer. La troupe arrive à Lima le 6 janvier 1943, à Lima où la saison se déroule très bien. Mais là aussi, pas question de se détendre. Le 4 mars, la troupe entreprend un voyage pour le moins aventureux, jusqu'en Équateur. D'abord au port de Guayaquil, puis à Quito, dans les Andes, où le 15 mars 1943, c'est encore un succès tout à fait inattendu. Et de là, ils partent à Bogota, où ils arrivent le 20 mars, après l'ascension des Andes depuis le fleuve Magdalena, une nouvelle équipée périlleuse. D'ailleurs, les décors sont endommagés. Mais les Colombiens les accueillent avec un tel enthousiasme que c'est la plus belle des récompenses. Et la beauté du théâtre Colón de Bogota les ravit. Il fallait bien un brillant bambuco, la danse nationale colombienne, pour fêter leur arrivée.
Thank you.
Eduardo Carrizosa à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Bogota dans un bambuco colombien orchestré par le compositeur Blas Emilio Ateortúa.
Je n'aime ni les souvenirs ni les commentaires en matière de théâtre. Ils sont mélancoliques et j'ose dire que pour celui qui a le goût de l'action, ils sont dangereux.
La voix de Louis Jouvet, il a bien raison, lui qui vivait alors toutes ces tribulations incroyables en Amérique. Alors arrivé à Bogota, Louis Jouvet et ses comédiens sont accueillis comme des amis. C'est le représentant du général de Gaulle qui a organisé au Théâtre Colonne une série de 9 représentations. Dans ce superbe théâtre qui fait le plein, c'est l'École des femmes de Molière qui recueille à nouveau un véritable triomphe. Jouvet est très ému. Et la Colombie, pour lui, c'est une sacrée découverte. Il va d'émerveillement en émerveillement, surtout quand ils descendent les Andes jusqu'à Medellín, où ils vont rester 6 semaines. Et après les représentations, profiter enfin d'un repos mérité dans ce pays qu'on dit être le pays du printemps éternel. Mais le rythme frénétique reprend bien vite. De Medellín, c'est un voyage très turbulent en DC-3 vers Caracas. C'est le 11 juin 1943. Et là aussi, Jouvet est impressionné par le nombre important de Vénézuéliens francophones. La troupe reste au Venezuela 10 semaines et le succès est au rendez-vous. Mais on le sait, Louis Jouvet se fait un point d'honneur d'aller jouer à Haïti, le seul pays francophone de la région, et puis de partir ensuite à la conquête du Mexique. Or, le bateau fait escale à Cuba, et Jouvet n'avait pas pensé à Cuba. Et en plus, le prestigieux hôtel Sevilla Biltmore de La Havane peut les accueillir, un luxe auquel Jouvet ne s'attendait pas. Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Les voilà donc partis à Cuba. Une saison à La Havane qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Comme dit le boléro cubain le plus célèbre en cette année 1943, « Me gustas, eh oui, La Havane, tu me plais. »
Me gusta, tu sabes que me gusta, tu sabes que te quiero, si es imposible tener tu amor. Te quiero, tú sabes que me muero y que no puedo vivir sin ti. No sé por qué quererte así, si no te mereces mi amor. No sé por qué pensar en ti, si ya no puedo volverte a querer. Tú sabes que te quiero, mas sin el barco maldices mi querer. Te quiero, tú sabes que me muero, si es imposible tener tu amor. No sé por qué quererte así, si no te mereces mi amor. No sé por qué pensar en ti, si ya no puedo volverte a querer.
Le 19 août 1943, la troupe débarque au port de La Havane, ce qui va permettre à Louis Jouvet de préparer la tournée au Mexique, car il a décidé d'inclure 4 pièces supplémentaires. Léopold le bien-aimé, puis Électre et Ondine de Giraudoux, et Monsieur le Trouadec saisi par la débauche de Jules Romain. Le 8 septembre à La Havane, ils apprennent la reddition de l'Italie. C'est la fête. Et 15 jours plus tard, Jouvet est l'invité du déjeuner mensuel des Français libres à La Havane. Les comédiens sont fascinés par le théâtre Auditorium où ils jouent. Il est splendide et l'acoustique remarquable pour une salle de 2600 places. Et en plus, ils n'en reviennent pas, les salles sont pleines. Ils vont donner 5 représentations entre le 14 octobre et le 11 novembre. L'école des femmes et le médecin malgré lui de Molière, l'annonce faite à Marie, l'Apollon de Marsac et Knock de Jules Romain, et de nouveau, Je vivrai un grand amour, la pièce de Steve Passeur. C'est un nom qui cache un auteur bien français. Il avait alors une 40aine d'années. Et la pièce fait encore un énorme succès à La Havane. C'est quand même étonnant pour une histoire d'amour impossible dans un château du Périgord et racontée en français. Jouvet est vraiment épaté par le niveau de vie à Cuba. Le peso est au même taux que le dollar et le peuple est tellement cultivé. Il est épaté aussi par la réputation de l'orchestre philharmonique de La Havane que dirige Erich Kleiber, sans parler de la superbe saison de concerts. Deux préludes en forme de conga de carnaval, composés à La Havane dans les années 40 par Hilario González et interprétés par le pianiste cubain Victor Díaz Hurtado. Louis Jouvet découvre émerveillé la ville de La Havane et il en rend compte à la presse. C'est une ville qui n'a rien à envier aux plus grandes capitales. De plus, le public a une perception exceptionnelle des œuvres d'art. Au théâtre, il réagit avec une justesse qui m'impressionne, surtout pour des œuvres interprétées en français. Bientôt, le séjour à Cuba s'achève, on est à la mi-novembre, et c'est le départ pour Haïti. À ce propos, l'écrivain cubain Alejo Carpentier a souvent dit qu'il faisait partie du voyage. Mais Louis Jouvet, qu'il avait rencontré à La Havane, ne le mentionne pas. En réalité, Carpentier était l'invité de Pierre Mabille, qu'il avait bien connu à Paris, et qui était, à Haïti, l'attaché culturel avec fonction d'ambassadeur de la France libre en poste de 1940 à 1946 à Port-au-Prince. Jouvet demande au gouvernement haïtien de prendre en charge la troupe en échange des recettes qu'il lui reversera. La troupe arrive mi-décembre 1944, les comédiens sont accueillis par le président Élie Lescot qui gouverne le pays d'une main de fer. Louis Jouvet est reçu comme un chef d'État. Et à son départ, après les représentations accueillies avec ferveur, le président lui a même remis la recette des spectacles. Sans doute qu'à Haïti, Louis Jouvet a entendu la chanteuse et danseuse Martha Jean-Claude, qui commençait en 1944 une grande carrière en interprétant avec ses musiciens de vieilles chansons haïtiennes, de vrais trésors qu'on commençait à oublier, comme ce « Cousin, cousine ».
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret. Une coproduction des médias francophones publics.
Cousin, 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 cousin.
Cousin, pas vrai, cousine.
La chanteuse haïtienne Martha Jean-Claude, qui va bientôt fuir la dictature haïtienne et demander l'asile politique à Cuba. À Cuba, où le 7 janvier 1944, Louis Jouvet et ses comédiens doivent repartir, ils débarquent à Santiago, ils rejoignent Camagüey en autocar, Ciego de Ávila en autorail, pour prendre le bateau vers l'île des Pins. Là, ils embarquent sur un cargo qui doit les mener au Mexique. La troupe doit coucher à même le pont, sans cabine ni commodité, à la merci des intempéries. La nourriture est infecte et le confort inexistant, mais puisque Jouvet subit le même sort sans rien dire, personne n'ose se plaindre. À peine débarqués, ils vont rejoindre Mexico via la ville de Tampico. Ils sont éblouis par le superbe théâtre de Bellas Artes qui compte près de 2000 places et qui est mis à leur disposition gratuitement. Ils reçoivent une aide de 10 000 pesos de la part du général de Gaulle. La saison débute le 28 janvier 1944 à Mexico par une représentation de l'École des femmes devant une salle archi-comble et s'achève le 31 mars.
Fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal.
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
Autant ! Il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ? Ouf !
Et il m'a...
Quoi ?
Pris.
Eh ?
Le...
Qu'est-il ?
Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Non.
Si fait !
Mon Dieu, non !
Jurez donc votre foi.
Ma foi, soit !
Il m'a pris... Vous serez en colère.
Non.
Si.
Non, diantre, que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris ?
Il...
Je souffre en damné.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
Passe pour le ruban.
Thank you.
Molière et Mozart ici réunis, c'était le premier mouvement de la sonate numéro 15, Köchel 310 en la mineur de Mozart, par Rosita Renard. Rosita Renard, qu'Erich Kleiber avait invité à La Havane avec l'orchestre philharmonique en 1944, mais Louis Jouvet n'avait pas pu l'entendre, il était déjà reparti au Mexique. Au Mexique où il remporte un très grand succès. Toute la troupe est alors invitée à San Juan de Porto Rico, où les comédiens jouent les 2 et 3 août 1944, puis ils reprennent le bateau pour la Martinique. Le 5 août, à Fort-de-France, Louis Jouvet doit faire appel à des comédiens amateurs, car plusieurs Français sont restés au Mexique de crainte d'être mobilisés à leur arrivée en territoire français. Avec sa troupe de fortune, Louis Jouvet donne une série de représentations en septembre. Le public nombreux lui en est très reconnaissant, d'autant plus qu'il travaille dans la joie. Paris vient d'être libéré. En automne, Louis Jouvet et ce qui reste de sa troupe partent aux États-Unis. De là, ils embarquent pour Casablanca, dernière étape avant Marseille, où ils arrivent le 11 février 1945. Quelle équipée ! Oui, l'Odyssée latino-américaine de Louis Jouvet mériterait d'être portée au cinéma. Et ce n'est pas fini. En 1950, il retourne aux États-Unis. L'accueil est à nouveau très chaleureux, mais il a une attaque pendant une représentation de l'École des femmes à New York. À son retour à Paris, nouvel infarctus au théâtre de l'Athénée, il meurt le 16 août 1951. Doña la Negra, une légende au Mexique dans la berceuse que chante l'esclave noir à son enfant Oguere. Un des chants les plus connus de Gilberto Valdés. En avril 1944, le chef d'orchestre Wilhelm Steinberg avait été le premier à inclure dans un concert du Philharmonique de La Havane une œuvre d'un compositeur de musique populaire afro-cubaine. Au salut, Gilberto Valdés avait essuyé quelques sifflets de la part de mélomanes un peu rigides, mais vite couverts par les applaudissements. Erich Kleiber va aussi devenir très ami avec Gilberto Valdés, et il le programme le 5 avril 1945 dans une œuvre en hommage au docker du port de La Havane, et c'est un magnifique succès. Il n'en existe hélas aucun enregistrement. Or, en mars 1944 à Cuba, l'écrivain Alejo Carpentier présente un concert d'œuvres de Gilberto Valdés justement à l'université de La Havane. Au programme, Tambor, qui avait eu aussi un très grand succès. Gilberto Valdés l'a enregistré plus tard avec l'orchestre de chambre de Madrid. On imagine, en l'entendant, ce que devaient être les œuvres symphoniques de Valdés qu'avait dirigé Kleiberg à La Havane avec la passion qu'on lui connaissait.
Thank you.
À La Havane, Erich Kleiber a beaucoup aimé partir à la découverte des compositeurs cubains. Il aimait surtout ce qui était très indépendant, pas les officiels. C'était le cas de Gilberto Valdés et aussi de Pablo Ruiz Castellanos. Ruiz Castellanos était né dans une petite bourgade appelée Monte Rus, près de Guantanamo, à la pointe orientale de l'île de Cuba. Une famille humble, des études à Santiago, il dirige pour les théâtres. En 1934 et 1935, il compose deux œuvres, une prière noire et une rumba en rhapsodie. En 1937, c'est Ernesto Lecuona qui lui confie l'orchestration d'une partie de sa rhapsodie argentine. Trois ans après, il compose une symphonie qui évoque son enfance à Monte Rus, puis un poème symphonique qui évoque la campagne cubaine et qu'Erich Kleiber aime beaucoup et qu'il décide de programmer. Mais voilà, le cyclone qui s'était abattu sur Cuba le 18 octobre 1944 avait détruit la maison du compositeur et la plupart de ses partitions. Kleiber décide alors de diriger à la place le poème symphonique Monte Rus que le compositeur était en train de réviser. Et le public ne s'est pas trompé ces soirs-là, quand dans le vaste théâtre Auditorium et au Théâtre National, après Mozart, Weber, Schubert et Johann Strauss, il a applaudi à tout rompre l'œuvre de Ruiz Castellanos. Mais nous n'avons pas d'enregistrement de sa musique, si ce n'est celui d'une œuvre plus tardive, Trova entre palmares, un chant dans les palmeraies, enregistré en 1970 par la radio cubaine CMBF, que nous remercions ici vivement pour cette archive. Trova entre palmares, un chant dans les palmerets de Pablo Ruiz Castellanos, l'orchestre symphonique de Cuba dirigé par Félix Guerrero. En 1944 commence une belle tradition à la Havane. C'est Ernesto Lecuona qui l'inaugure. Les concerts en plein air le soir sur la place de la cathédrale, des concerts gratuits. Il y en aura toutes les semaines en été en 1945. Le 26 février 1944, c'est Ernesto Lecuona qui joue en soliste le Caprice cubain de Hubert de Blanc avec l'Orchestre Philharmonique. Hubert de Blanc, c'est un compositeur d'origine hollandaise qui avait lutté à Cuba pour l'indépendance du pays au XIXe siècle. C'est Hubert de Blanc qui a créé le Conservatoire National de la Havane. C'est un enregistrement qui a été réalisé sur le vif lors d'un concert de l'Orchestre Symphonique National placé sous la direction de Jorge López Marín.
Thank you.
C'est Hilda Mélis au piano qui jouait dans ce Caprice cubain d'Hubert de Blanc avec lequel on va se quitter aujourd'hui pour se retrouver bien sûr dans le prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Julien Douminc. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.